Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
À Maastricht, en Hollande, le TEFAF, the European Fine Art Fair, est le plus prestigieux salon de l'art et des antiquités du monde qui réunit les plus grands professionnels universitaires, critiques d'art et collectionneurs. C'est là que se conclura une rocambolesque aventure qui nous est contée avec beaucoup d'humour, d'originalité et un grand sens de l'observation dans un roman édité au Mercure de France intitulé « Un tableau neigeux ». Et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur. Manuel Benguigui, bonjour.
Bonjour.
Vous aimez le monde de l'art?
J'aime l'art en général, l'art,
oui.
Avant tout.
Et le monde de l'art? Ça dépend. Et
ça dépend.
Pour moi, votre ouvrage est à la fois un roman d'aventure, souvent très drôle. C'est aussi une enquête dans un milieu que nous connaissons mal, enfin que moi je connais mal, le monde de l'art. Mais ça parle aussi de solitude, d'ennui, de vide. Et également de l'impact bienfaisant de l'art sur l'homme. Alors, tout commence par quelque chose d'étrange. Est-ce que vous pourriez, Manuel Benguigui, nous lire ce qui se passe dès la première page?
Alors, donc, je vais effectivement lire l'incipit, le premier chapitre en fait, qui est assez court. C'est tout blanc, comme une toile sur laquelle vient d'être passée l'après, cette première couche qui servira de fond. Au premier abord, on ne distingue rien. Rien n'est encore peint, et peut-être jamais ne le sera. Le monde, ou plutôt son absence, réduit à deux dimensions. Sauf que ce blanc infini et parfait est troublé, perturbé, par de petites formes progressant sur une crête rocheuse, crête qu'on imagine parce qu'on imagine mal les petites formes évoluées dans le vide, suspendues au milieu de rien. La neige, car c'est forcément de la neige tout ce blanc, la neige recouvre tout, couleurs et reliefs sont confondus, à l'exception de ces petites formes, qui s'identifient comme une chaîne d'hommes marchant les uns derrière les autres. De loin, ils sont tout noirs. Ils sont tellement petits, de loin, qu'on dirait qu'ils ne progressent pas, qu'ils ont gelé sur place, peut-être. Il faut plisser les yeux, faire preuve de patience pour les voir se mouvoir, lentement. Des formes plus grosses les accompagnent, intercalées entre eux, rompant la régularité de la file. On dirait des éléphants, tout aussi noirs dans tout ce blanc. Il doit faire froid là-haut. C'est sûrement très haut, quoiqu'on ne distingue pas les cimes, étant donné que c'est tout blanc. Tant de neige, c'est sûrement très haut. Cette image de tableau blanc, pas tout à fait blanc, vient à Edwin alors qu'il ne connaît rien à la peinture et se tient devant une interminable baie vitrée à l'étage sommital d'un gratte-ciel flambant neuf, tout de verre et d'acier constitué. Elle a été suscitée, appelée à lui par la vision qu'il a de la ville à l'altitude où il observe celle-ci. En cette heure matinale, Manchester est encore enveloppé dans une épaisse et vaste purée de pois blanche. Le ciel ne se distingue quasiment pas. Edwin se demande soudain ce qu'il fait là. Il le sait. Il a accepté l'invitation d'Edgar. En fait, plus précisément, il se demande pourquoi diable il est venu. Et surtout ce qu'il va bien pouvoir faire ici, dans un appartement de grand standing, avec un tableau neigeux inconnu à présent logé à l'intérieur de son cerveau.
Alors, le blanc et la neige vont être omniprésents dans votre roman. Pourquoi c'est étrange que Edwin, votre personnage principal, fasse une fixation comme ça sur ce tableau qu'il croit voir? Un grand rectangle blanc. Je dois vous avouer que j'ai pensé, dans un premier temps, devinez à quoi, à la pièce de théâtre de Yasmina Reza.
Alors, ça fait pas partie de mes références directes, mais effectivement, il y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai lu un article et à partir du moment où j'ai écrit le texte et qu'il a été publié, et à partir du moment de sa publication, moi-même, autant que les gens autour de moi, ont essayé de trouver et ont vu beaucoup de tableaux blancs tout à coup et du carré blanc sur fond blanc de Malevitch, évidemment.
Oui, de Malevitch, évidemment. Oui.
J'étais à la TEFAF cette année et il y a un tableau qui était presque blanc. Que de loin on pouvait croire blanc et que certains ont pris malicieusement pour le tableau neigeux. Donc c'est vrai que c'est,
oui.
Ça peut,
oui,
être,
oui,
amusant,
oui,
comme,
oui,
recherche.
Tout à fait, il va falloir que vous l'illustrez, votre ouvrage. Alors, pour moi, c'est quand même une métaphore. Cette neige, ce blanc, ce gris, c'est peut-être une idée de l'ennui, peut-être de la mort, c'est un linceul aussi, enfin... Chacun, vous reconnaîtrez que les lecteurs s'emparent de votre ouvrage.
Oui, c'est un plaisir et un grand malheur parfois. mais surtout un plaisir quand même de voir ce que
ce qu'on en fait.
Voilà, ce que les lecteurs peuvent en faire. Et je tiens à préciser, en fait, ça a été un grand questionnement pour moi, et c'est toujours un grand questionnement d'ailleurs dans l'écriture d'un livre. Est-ce qu'on met sur la table avant l'écriture le propos et la thèse, ou est-ce qu'on ne le fait pas?
Ouais.
Et là, en l'occurrence, je n'ai pas du tout fait ça. J'ai écrit, au premier mot, toutes les portes sont ouvertes. Et j'ai avancé, et donc plus vous avancez, plus vous fermez de portes, et plus vous adaptez par rapport aux portes qui restent encore ouvertes et celles qui sont fermées. Et a posteriori, du coup, quand vous me parlez de ce blanc omniprésent, de cette neige omniprésente, spontanément, sans réfléchir, je vais vous parler de pureté. Dans l'acception occidentale de la couleur blanche, ce qui n'est pas forcément la même dans toutes les civilisations. Mais vous mentionnez aussi le gris, et c'est vrai que la brume dans une ville anglaise est plutôt grisâtre plutôt que blanche.
Paris aussi.
Là, on est peut-être moins dans la pureté, mais justement, on peut penser à l'ennui, à la mélancolie, au spleen, etc. Sachant que, par contraste, ça peut paraître un peu facile dans un premier temps, mais j'ai essayé de parsemer le récit de ce combat intérieur que poursuit Edwin, le personnage principal, entre cette quête du blanc et cette envie de pyromanie.
On va en parler.
Qui l'assaille très souvent, c'est-à-dire qu'il a très souvent...
C'est pour ça que vous parliez de purification, ça peut être purification par le feu aussi.
Voilà, alors c'est pour ça, et c'est ça qui est plaisant finalement. J'essaye, autant que faire se peut, d'éviter les choses trop simplistes ou trop manichéennes ou trop dichotomiques. Mm-hmm. Et du coup, ça me plaît, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois dans le blanc un côté de quête de la pureté, mais aussi une immanence de l'ennui, de la mélancolie. Et du côté du feu, le feu, c'est à la fois la mort et la destruction, mais c'est aussi la purification. Mm-hmm. Donc je trouve ça... Là, tout de suite, vous voyez, quand on rentre dans une certaine nuance au sein même d'éléments apparemment simples ou simplifiables, ça m'intéresse. Là, vous voyez, ça m'excite, ça m'aiguillonne.
Oui, je comprends. Vous êtes aiguillonné comme lui par là, parce que je me dis aussi qu'à un moment donné, si vous voulez, pour moi, il me semble que justement, il y a des soubresauts dans sa vie. Comme un poisson dans un filet, vous savez. Il veut sauter hors du filet, finalement, dans lequel il s'est englué.
Oui, je pense toujours... l'analyse que j'en fais est aussi...
Vous la faites a posteriori, hein. Les poètes, quand on les interroge, ils disent « Ah, ben, j'avais pas pensé à ça, mais dans le fond, c'est pas fou. »
Mais j'aime beaucoup aussi votre renvoi à la poésie. C'est cette idée d'essayer d'entretenir une certaine spontanéité sur certains points, parce qu'évidemment il faut une structure, il faut que ça tienne debout, sinon on verse dans une sorte d'expérimental qui m'intéresse pas, qui est imbitable, quoi, le plus souvent, malheureusement. Mais donc tout en gardant un côté technique de narration, etc., qui à mon avis ne faut pas négliger, laisser une part à la spontanéité. Et j'ai oublié ce que vous me disiez.
C'était peut-être, en effet, de cet homme, on va se rendre compte qu'il a besoin de sortir de cette monotonie, de ce grisâtre.
Oui, voilà. Et effectivement, on parlait de le poisson dans un filet comme ça qui va essayer de rebondir, de bondir. Le personnage principal, donc Edwin, a cette envie.
Parce que c'est lui.
Après un long passage en vide, moi j'appelle ça un passage à vide pour éviter le mot de dépression, parce que je trouve ça presque galvaudé. C'est quelqu'un qui a brûlé sa vie au sens propre comme au figuré, et qui donc n'a plus rien et n'a plus envie de rien. Et au bout d'un moment, je n'explique pas la raison pour laquelle... Parce que je pense qu'il n'est pas toujours bon de tout expliquer et de tout psychologiser. Il a envie de sortir de sa réclusion assez relative, mais de son isolement. Et donc, il a envie de revenir au monde, presque littéralement. Et c'est là qu'il accepte l'invitation de son ami photographe. C'est quasiment la seule personne qu'il connaît encore. Et ce photographe, qui est un type qui travaille, qui fait des photos pour des magazines de design moderne et de mobilier moderne, donc dans des belles demeures.
On pourra parler de lui aussi, qui abandonne l'art d'une certaine manière.
C'est ça, voilà. Ouais. Et donc Edwin rejoint pour un shooting photo dans un bel appartement de Manchester son ami Edgar. Et on sent peu à peu qu'il revient au monde, mais c'est par à-coup. Et il y a un élément qui l'obsède, et c'est ça qui fait toute la puissance de son élan, qui à mon avis sans cela s'atténuerait, c'est ce tableau neigeux, du tableau neigeux.
Justement, on va voir de quelle manière, mais je me suis dit que dans le fond, le vol qu'il a accompli, on pourra en parler, cette pulsion de pyromane, c'est peut-être pour rompre la routine et repartir. Et quand vous avez dit le feu, effectivement, je regardais mes notes, ce blanc de la neige, le feu, est-ce pour tout supprimer ou purifier son passé et repartir à zéro? Voilà, c'est ce que je me suis posé comme question. Ça répond, vous avez répondu déjà dans le fond. C'est un peu de ça.
Oui. Il y a le feu, donc comme à la fois comme élément destructeur et élément purificateur. Mmh. Et donc il faut peut-être préciser que dans l'appartement à Manchester qui ouvre l'ouvrage, d'un côté, dans la même journée, dans cet appartement, pendant qu'Edgar fait ses photographies pour le magazine pour lequel il travaille, Edwin se balade, puisqu'il n'a finalement rien à faire.
Sous le regard désapprobateur du majordome.
Voilà, du majordome de
On en parlera aussi de ce personnage.
Qui s'appelle Boniface. Et donc Edwin déambule, observe, s'ennuie un petit peu, et puis observe l'appartement. Donc il commence par avoir cette vision de ce fameux tableau neigeux. Et un peu plus tard dans la matinée, il déambule dans l'appartement. Les propriétaires possèdent une très belle collection d'œuvres d'art, notamment de tableaux, de peintures, de dessins. Et il met dans sa poche un petit tableau du XVe siècle auquel il ne connaît rien, pas plus qu'au tableau neigeux.
Et auquel il ne s'intéresse pas particulièrement.
Il n'y s'y intéresse pas particulièrement. Et il le met dans sa poche sans se poser la question, tout simplement parce que le tableau a le format de sa poche. Mmh. Point. Et là encore, ça, j'apprécie cette idée d'omission, de mise à l'écart de la psychologie. Je viens à ce que vous évoquez, c'est cette idée de moi rompre. J'aime beaucoup le mot d'insolite. Mmh. Et la notion d'insolite. Mmh. Et je pense que ça...
Oui, c'est un acte auquel on ne s'attend pas.
Voilà, et l'insolite permet, et là je reviens vers vous, de rompre une certaine monotonie de la vie et un certain ennui du coup.
Oui.
C'est-à-dire que c'est de chercher l'insolite, voilà, l'extraordinaire,
oui.
Littéralement. Ce qui sort de l'ordinaire, ce qui permet de, tout comme l'art d'ailleurs à mon avis, un peu dans une certaine mesure, qui permet de
sortir de soi,
voilà, de donner à la vie ce qu'elle ne donne pas spontanément.
Oui. Oui. Voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi au cours de votre ouvrage, on pourra en parler également du style, c'est que les informations sont données au compte-gouttes. On découvre une forme de vérité. Une forme, je dis bien, que peu à peu, en fait. Hein. Les gens et les choses et les relations entre eux se dévoilent peu à peu. Alors, il y a trois lieux, essentiellement. Bon, on pourrait parler de Hong Kong, c'est Hong Kong, je ne sais plus.
C'est Hong Kong, oui.
Oui. Mmh. Mais il y a surtout Manchester,
oui.
Paris et Maastricht.
Ouais.
Voilà, des endroits mythiques. Maastricht, on le savait pour d'autres raisons. Je dois avouer que je ne suis ignare et je ne connaissais pas ce lieu de l'art. Apparemment, c'est quand même une
c'est un rendez-vous
important.
C'est un rendez-vous majeur du monde de l'art,
oui.
Puisque c'est, pour ceux qui connaissent l'équivalent en France, c'est la Biennale des Antiquaires à Paris.
Oui.
C'est vraiment absolument rien contre la Biennale, qui est un très bel événement. Mais simplement, à titre de comparaison, la Biennale, c'est à peu près 120 exposants. La TEFAF, c'est 270. Voilà. On parle de 70 000 à 80 000 visiteurs par an. Enfin,
ça se passe à quelle époque, ça?
C'est en mars. Mi-mars, d'accord. Chaque année.
D'accord. Mais ce n'est uniquement que pour les professionnels et les amateurs.
Les amateurs peuvent entrer, payer un ticket au prix assez exorbitant, objectivement, mais quand vous penchez sur la question, on parle souvent du plus grand musée du monde.
D'accord.
C'est un endroit qu'il est absolument impossible de visiter en une seule journée. D'ailleurs, ça dure 10 jours, c'est très long.
Bon, Manuel Manguini, je vous propose une première pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Thank you, ladies and gentlemen. Speaking on behalf of myself and the one and only Constance Field. We are happy because you let us in your home tonight. And I shall do for you a number I call my breadwinner. Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. Every day and every night.
Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Manuel Benguigui, qui a écrit un ouvrage intitulé, un roman intitulé Un tableau neigeux, paru au Mercure de France. Un tableau neigeux, un roman qui nous parle d'art, qui nous parle d'individus plutôt originaux, qui ont tous leur originalité, leur personnalité, avec des descriptions que je trouve vraiment extraordinaires. Ils sont tous, oui, aussi originaux qu'Edwin. Alors, ils sont tous dans le monde de l'art. On a un collectionneur, sinon deux, puisque mari et femme, un photographe, un expert, une galériste. Alors déjà, ce couple marié qui ne se rencontre jamais, et on va voir l'évolution des choses, le bienfait de l'art là aussi, c'est un couple également richissime déjà, on peut dire, rendu riche par l'art.
Rendu riche par un certain trafic, surtout,
oui,
d'abord.
Ouais.
Mais plutôt que rendu riche par l'art, il me semble que c'est l'art qui est devenu leur raison de vivre par défaut presque, voilà. Puisqu'il se trouve qu'il y avait une sorte de je ne sais pas si on peut parler d'incompréhension ou de...
Ils vivent en parallèle.
Voilà, ils vivent en parallèle. Voilà, c'est un couple qui...
Voilà.
Qui n'a jamais divorcé, mais qui ne se connaît pas.
Oui.
Depuis, et étant marié depuis, je ne sais plus, 40 ans, 50 ans.
Oui. Alors, on verra, à un moment donné, ça ne manque pas de saveur, l'évolution aussi de leur relation. Il y a ce majordome plus royaliste que le roi, figé dans une immuable fidélité. C'est comme dans Woodhouse, hein, vous connaissez Woodhouse ?
Non.
Un auteur anglais, c'est Jeeves, qui est le majordome d'un lord anglais, d'un jeune lord, qui est un peu sot, tandis que Jeeves est très cultivé. Le lord anglais lui dit, vous savez, ce monsieur qui a réussi dans l'écriture, très bien dans le théâtre, et le majordome lui répond, Shakespeare, sir. Voilà, non. Alors lui, il est spécialiste de l'art culinaire, de l'informatique, de la serrurerie, et il prend à cœur les intérêts de ses maîtres. Il y a Edgar, alors le majordome, il est là. Pourquoi, finalement ?
C'est une bonne question. Pourquoi le majordome est là ? Après, il y a aussi je pense qu'il y a des personnages ou des éléments qui sont d'abord invoqués pour des considérations pratiques.
Mmh. Oui,
Et ils prennent cher ou
d'accord.
pas.
D'accord.
Et là, en l'occurrence, ça permettait d'avoir un intermédiaire, vous voyez.
Et quelqu'un qui ose aussi, non, peut-être.
Quelqu'un qui ose et quelqu'un qui est une sorte d'électron. Alors, je vais pas appeler l'idée d'électron libre, mais d'électron qui. Je crois que je ne sais plus pourquoi. Il m'est apparu qu'il fallait un majordome.
Oui.
Et que je trouvais ça intéressant que... Et ça, c'est le genre d'élément auquel je ne réfléchis pas forcément sur le moment.
En tout cas, il a son rôle.
Mais et à partir du moment où il est là, il me paraissait évident qu'il fallait qu'il... Très, très tôt, d'ailleurs, quand il fait la suggestion, quand il découvre que le petit tableau a été dérobé, il se doute bien que c'est un des deux visiteurs de la journée qui est reparti avec... Mais il leur donne l'occasion, de façon très diplomate, de le reposer. Et puis, il appelle son patron en disant « Le tableau n'est plus là. » Et à partir de ce moment-là, il m'a paru évident qu'il fallait qu'il ait un rôle de tête chercheuse, voyez, d'éclaireur et d'initiateur et de moteur de la recherche. Et il permet aussi de faire le pivot entre Foxtrot, qui est donc le mari âgé qui habite dans Manchester, et Denise, sa femme, qui se balade un peu partout dans le monde, mais surtout à Hong Kong. Et ça permettait de faire un lien qui s'efface ou pas.
Et puis, d'une certaine manière, surtout à la fin, il est le représentant de l'ordre. C'est celui qui veut que les choses reviennent en place.
Ouais. C'est le garçon bien élevé qui veut que tout c'est comme les enfants qui disent je me souviens mon beau-frère avait un jour avec sa fille de 8 ans, il avait pas de ticket pour prendre le métro et il dit bon c'est pas grave
on passe par-dessus.
Et sa fille était outrée. Elle dit non mais papa, mais c'est hors de question, on achète un ticket. Oui mais j'ai pas de ticket, on n'a pas le temps. Et elle a pas voulu passer au-dessus. Il a fallu acheter un ticket.
Voilà.
Donc Boniface c'est finalement le petit enfant. Et ça là aussi vous voyez, on revient à ce que je disais peut-être tout à l'heure, dans cette idée d'essayer de trouver des nuances qui sont à la fois la réalité de la complexité des êtres, d'un côté, et en même temps ce qui met un peu de sel. Parce qu'il y a effectivement des gens qui ne sont pas très nuancés. Mais ça m'a... Un jour, peut-être que j'écrirai là-dessus. Mais pour l'instant, à la fois dans la vie, dans l'écriture, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mmh. Et là, d'avoir ce personnage qui finalement est très sérieux, mais finalement a un comportement peut-être un peu enfantin par certains côtés. C'est-à-dire que c'est l'ordre comme le maître ou la maîtresse a dit. Il faut faire comme ça et pas comme ça. Et en face, ses patrons... plus ils vont avancer et plus ils vont devenir des gamins.
Oui.
Oui, alors oui. qu'ils sont, ils ont, 80, ils ont 80 ans et c'est eux qui vont devenir les vrais enfants alors que leur majordome est plus jeune qu'eux. Oui. Donc je trouvais ça.
Et finit par prendre le dessus d'une certaine manière, des décisions à leur place.
C'est ça.
Ouais. Et voilà. Alors il y a également Edgar qui est l'ami, le seul ami, le fidèle, qui materne, qui protège Edwin, qui entre nous soit dit sera quand même un peu ingrat. Et alors c'est, là aussi, il est quand même assez extraordinaire. C'est un photographe qui voyage beaucoup, qui va à droite, à gauche. Mais si on touche à son appartement, c'est une affaire d'État. Et là aussi, on voit quand même comme les vies sont réglées. Et quand on y pense, peut-être que nous sommes tous un peu comme ça, avec ce goût de que les choses ne bougent pas quand on a installé quelque chose. Hein.
Maintenant que vous le dites, ça c'est mon côté un peu... Je dois avoir un côté un peu comme ça, même si c'est très désordonné chez moi. Un côté... de l'ordre du rituel, en fait. Et effectivement, c'est le photographe Edgar, donc, à cette... Il n'est pas du tout ambitieux pour sa pratique artistique, parce qu'on pourrait imaginer qu'un photographe, même s'il est photographe de mode, à côté, souvent, d'ailleurs, très souvent, les photographes, on va dire, techniques, en parallèle, ont une pratique artistique de la photographie. Et lui, en fait, c'est pas quelque chose qui le turlupine plus que ça. Par contre, il a fait de l'agencement de son appartement quelque chose de... C'est son œuvre, finalement. C'est chaque bibelot est posé à une place précise.
Et justement, par rapport à sa vie itinérante, c'est peut-être aussi le point d'ancrage. Hein.
Ouais. On peut dire ça. Mais en parlant avec vous, je me rends compte, je me demande si c'est pas lui le... C'est lui le personnage le plus ennuyeux, en fait.
Oui,
je trouve,
le plus sage.
Le plus sage, le plus ennuyeux. Ouais. Et le plus ennuyeux au sens, quand je dis ennuyeux, enfin, on n'est pas obligé de parcourir le monde en faisant le zozo pour être pas ennuyeux, mais on peut être totalement sédentaire et pas ennuyeux. Mais,
c'est marrant, mais parce que dans le fond, dans votre page, on sent que c'est celui que vous aimez le moins.
Oui, parce que c'est, parce que c'est celui qui est le plus... qui est le plus proche, qui est le plus proche, exactement, qui est le plus proche des conventions un peu sclérosées, à mes yeux en tout cas, du monde de l'art, sans que j'ai rien de spécifique contre le monde de l'art, puisque je pourrais vous dire la même chose du monde de l'immobilier ou du BTP. C'est pas du tout spécifique au monde de l'art, contrairement à ce que parfois on peut penser, que le monde de l'art a ses spécificités comme tout domaine. L'art est censé être plus noble parce que propageant des valeurs, ceci ou cela, etc. etc. Le commerce reste du commerce. Après, on peut parler beaucoup sur le commerce, puisque le commerce, moi, ça m'a beaucoup interpellé il y a quelques années quand j'ai redécouvert l'idée que le commerce avait quand même deux sens. Alors aujourd'hui, on ne voit plus que le business, faire de l'argent, des transactions financières, échanger des biens. Le commerce, c'est aussi échanger des propos et des idées, c'est rencontrer, c'est parler. Ouais. Mais vous avez raison, c'est Edgar est pour moi un personnage, j'allais dire une personne, parce que le personnage, il est intéressant, au sein de la ronde, j'ai envie de dire, du livre. Des personnages du livre, mais en tant que personne, je pense que c'est la personne qui m'intéresserait le moins, moi.
Alors,
je pense.
Je passerai sur peut-être la galeriste Blondine, qui est séduite, je pense, par le côté un peu lunaire d'Edwin. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Robert. Alors, Nenningson, c'est ça ?
Bennington.
L'ancien professeur d'Edwin, qui est devenu expert en tableaux. Alors, moi, j'aimerais bien que vous nous lisiez la page 84, parce que ce professeur ne manque pas d'originalité non plus. Page 84.
Monsieur Bennington n'a pas tellement changé. La barbe est toujours là, qui était déjà poivre et sel une quinzaine d'années auparavant. Le dos voûté, la voix grave, les pellicules décorant le col, tout est peu ou prou identique. Les années se trahissent tout juste par la démarche et le débit ralenti. Et encore, M. Bennington retrouve-t-il sa vivacité à la venue d'un engouement ? Le monde est petit, n'est-ce pas ? Il faut croire, monsieur, répond Edwin. Allons, pas de monsieur avec M. Bennington, qui enjoint impérativement Edwin de l'appeler Robert, ce à quoi Edwin ne parvient pas. De l'appartement, aucun pan de mur n'est visible, tout s'étant tapissé de livres du sol au plafond, parfois sur deux rangées, l'une dissimulant l'autre comme un matériau isolant. Monsieur Bennington souligne qu'une telle disposition lui épargne de conséquents frais de chauffage. La retraite d'enseignant est maigre, les marchands et les musées d'incorrigibles radins. Il ajoute qu'il ne faut pas le prendre mal, qu'il fut très heureux d'enseigner, mais plus heureux encore d'arrêter. Les jeunes sont insupportables, vous savez. Edwin ne le prend pas mal et il se doute que les hordes d'immatures sont souvent peu portées sur les primitifs flamands, la grande passion dont M. Bennigsen a fini par faire profession. Edwin a tout à fait raison. M. Bennigsen acquiesce comme s'il entendait une vérité clamée à la cantonade, enfin reconnue et partagée. Ses yeux brillent, il est prêt à voir le tableau évoqué par téléphone. Une petite toile marouflée sur bois, m'avez-vous dit ?
Voilà, alors nos auditeurs auront vu tout l'humour qu'il y a dans cette page sur le professeur dont les élèves sans doute ne s'intéressaient pas au peintre flamand. Je me dis que dans le fond, dans l'ensemble, tous sont des gens. Alors évidemment, on a été très méchant avec Edgar, mais dans le fond, tous ont des vies quand même réglées d'une certaine manière. Il y a peut-être pour eux trop de routine. Ils trompent l'ennui comme Foxtrot, parce que Foxtrot, à un moment donné, vous le dites bien, il s'ennuie. Il s'ennuie dans cette belle demeure. Et Edwin, ça va être le trublion.
Oui, Edwin, effectivement, est le personnage qui va un peu secouer, perturber, et pour certains dans le bon sens du terme. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de bon ou mauvais sens, en fait. Il va rafraîchir la vie des gens qu'il va rencontrer.
De secouer.
Voilà, aussi bien la galeriste, la jeune galeriste Blandine, que l'ancien professeur Bennigsen, Foxtrot et sa femme Denise, et même Boniface, le majordome, il va un peu bousculer leur vie.
Oui.
Parce que
le sens de leur léthargie.
Voilà. Et c'est-à-dire lui voulant revenir au monde, ayant un objectif, c'est cette quête obsessionnelle du tableau neigeux. En fait, il est, si on veut parler un peu en termes psychanalytiques, même si je n'aime pas, en tout cas dans les livres, mettre surtout pas trop de psychologie, parce que je trouve ça fatigant et pas très intéressant en termes littéraires. Il a plus de surmoi. Il est tombé tout. Moi, je trouve ça très beau quelque part d'arriver. Enfin, c'est presque. J'ai pas lu des choses sur le Bouddha, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est de se laisser tomber tout en bas, le plus bas possible,
et pour pouvoir mieux remonter,
plus libre de goûter au monde.
Et ouais, une renaissance.
Voilà. Et par le fait de sa revenue, de son retour au monde, il bouscule les autres et les entraîne peut-être plus ou moins dans son sillage.
Daniel Benguigui, je vous propose une seconde pause musicale et nous continuons tout à l'heure à parler de votre ouvrage.
You know I don't want to leave you, darling. I want to allow you another breath. Don't wanna leave you, baby. Want to allow you one more breath. Lord, I just wanna see what kind of real good girl you made. People, you don't know my mind. People, you don't know my mind. Got the blues about somebody, a little girl I left behind. How can I do when you won't do right yourself? How can I do right when you won't do right yourself?
It's true that I'm loving you, baby, but you're wasting your time with someone else. Now you may go to the country or some faraway place. You're bound to get lucky, baby, most in your place. You're gonna need my help, baby. You're gonna need my help one day. And won't you please quit your sinning? Little girl, stop your evil way.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Dernière partie de notre entretien avec Manuel Benguigui autour de son roman Un tableau neigeux, paru aux éditions Mercure de France. Alors oui, alors cet homme qui a volé un petit tableau qui l'intéresse pas, mais lui a un fantasme, il court après un tableau qui n'existe probablement pas, qu'il va rechercher. C'est un peu le Graal, hein, la quête du Graal. Et il y a une course-poursuite qui va s'effectuer. Et c'est drôle. Tous ces personnages qui vivent, qui tournent autour de lui, plus ou moins, vont se retrouver tous à Maastricht. Et il court après Edwin ou après le petit tableau qu'il a volé. Et lui, ben dans le fond, il est en dehors de ça. À part le majordome dont il se méfie parce qu'il a cru l'apercevoir, et il est à la recherche de son fantasme.
Je ne sais pas si on peut parler de fantasme. Je l'avais pas envisagé comme ça. Pourquoi pas mais alors, pourquoi pas. C'est intéressant comme approche aussi. À l'origine, moi, je n'avais pas du tout. Je trouvais que c'était un élément narratif intéressant pour suivre quelque chose.
Oui.
Alors, a posteriori, comme on disait tout à l'heure, on peut voir la poursuite du tableau neigeux, la quête du tableau neigeux, comme une quête de soi qui ne finit jamais, etc., etc., mais qui permet de mieux se connaître. Bon, ce qui finalement est assez, assez vu et revu, mais c'est pour ça que au-delà de ce côté de la quête existentielle, le fantasme est intéressant parce que je pense qu'on y place peut-être plus de choses, notamment le désir, qui est une valeur qui est trop souvent absolument centrée sur le sexe, et je pense que le désir est bien plus large que le sexe.
Absolument. Alors, l'humour, je trouve, vient des motivations différentes de chacun, par des chemins détournés que prennent. Alors, ça excite, ça ranime. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand tout d'un coup, il songe à Hannibal, alors qu'il est dans une situation amoureuse, moi, j'ai éclaté de rire, parce que, évidemment, il y a de quoi être étonné de la part de son amoureuse, Blandine. Il y a une scène onirique fantastique. Décidément, je vous fais travailler, hein, et vous avez de la chance, parce que j'avais beaucoup de lectures en cours. Page 109, que j'ai beaucoup aimé. Et là, on est justement dans un monde autre. Et nous pourrons parler de ce comique ensuite aussi, de ce comique de situation.
Edwin tourne en rond dans la ville, le tableau neigeux sur un des murs du salon de son esprit. Se tiennent dans la pièce Edgar, qui n'ose pas déranger, Blandine, qui ne souhaite pas rejoindre, Monsieur Benningson, qui le fixe du regard, et le majordome du penthouse, qui le fixe tout autant. Edgar est agenouillé face à un fauteuil, les coudes sur l'assise, les mains jointes. Il prie peut-être pour la bonne arrivée de son logis au ciel. Son logis tel qu'il a été pendant les 14 dernières années n'est plus. Il tenait beaucoup à la perfection de l'agencement, des meubles et tapis, des tableaux et photographies. Le haut de son dos convulse par moments, peut-être qu'il sanglote. Blandine, M. Benningson et le majordome, quant à eux, lui font face, bien campés au fond de leurs sièges respectifs. Leurs yeux brillent, quoique d'un éclat différencié, à chacun propre. De lourds pendentifs en pierre verte habillent un grand lustre suspendu à un plafond invisible, vacillent sous l'effet de tremblements sans cause ni origine, et finissent par tomber les uns après les autres, pour s'écraser bruyamment sur un sol de verre. Le sol se fendille, se craquelle, tout près de rompre sous les assauts de la pierre dure. Les pieds d'Edwin s'élèvent alors devant lui, son corps presque à l'horizontale dans les airs, les bras tournoyant dans une recherche d'équilibre avorté. Il retombe sur le coude et la hanche gauche. Le trottoir est couvert de glace, dans une rue sombre et peu passante. Edwin s'est fait mal, mais pas trop.
Voilà un passage insolite, pour reprendre votre l'adjectif que vous avez utilisé en début d'émission. En tout cas, aussi, alors il y a le comique qui vient de ce que vous le réunissez tous, non seulement dans ce salon, mais également dans l'hôtel. Et chacun, écoutez, je verrais bien votre roman porté à l'écran. Ça serait très drôle, ça pourrait être très drôle. Et lui, l'innocence même, il est coupé du monde, il est dans un ailleurs à la recherche de son fantasme, ou peut-être de ce qu'il est vraiment. Vous décrivez aussi le fonctionnement d'un salon. Et pour qui ne connaît pas, on n'aura pas le temps de lire, je pense, le monde de l'art, dans ce milieu de collectionneurs, d'art, un microcosme de gens passionnés ou avides de bonnes affaires, ou les deux à la fois, je ne sais pas. On s'embrasse pour ne pas s'étrangler, parce qu'ils s'embrassent beaucoup.
C'est peut-être un peu dur, parce qu'il se trouve que c'est un milieu que j'ai connu et que je connais quand même encore d'assez près.
Il y a une rivalité quand même.
Il y a une rivalité, une compétition comme dans n'importe quel domaine économique. Ce sont des sociétés, des compagnies, des sociétés qui veulent vendre plus que le voisin parce que sinon vous faites écraser. Le domaine de l'art n'échappe pas à ces données-là. Mais comme vous disiez, il y a effectivement une bonne dose de passion pour un certain nombre de marchands, puisque ce sont des marchands d'art. Malheureusement, enfin moi de mon point de vue, un peu malheureusement, mais il y a des gens que ça ne dérange pas du tout, malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, l'argent est le nerf de la guerre. Donc quand vous... À moins d'être... Alors c'est le cas pour certains marchands d'art qui n'ont pas besoin de gagner d'argent. Alors là, effectivement, si vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent, c'est comme une danseuse. C'est un violon dingue, vous faites commerce de l'art par passion. Donc vous acceptez ou refusez ce que vous voulez puisque vous n'êtes pas dirigé par votre banquier. À partir du moment où c'est un gagne-pain, que vous soyez riche, que vous ayez des gros budgets ou pas, le nerf de la guerre, c'est acheter pour vendre, vendre pour acheter. Trouver des objets ou des tableaux à vendre et trouver des clients, des collectionneurs à qui les vendre. Et parfois... Malheureusement, ça prend une place qui est difficile à effacer, mais qui parfois corrompt une partie de la passion, peut-être.
Parfois. Alors, on ne va pas parler, évidemment, de la fin de votre roman. Ce n'est pas un roman policier, mais il y a une sorte d'enquête, quand même. Mais moi, je voudrais qu'on parle de l'humour, parce que je trouve de l'humour à bien des endroits, des passage. Bon, c'est même Edwin, qui est de l'innocence, apparemment, puisqu'il agit sans méchanceté, presque par hasard. Et puis, avec ses pulsions de pyromane, régulièrement, on se dit, mais il va encore mettre le feu quelque part. Puis non, finalement, non. Il y a du suspense chez vous. Bon, et puis dans ce couple qui a, alors vous dites 80 ans, qui se retrouve au bout de plus de 30 ans de vie commune, ça n'a jamais été un couple, et il devient un couple par la grâce d'Edwin, en définitive.
Voilà, c'est là aussi, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par la grâce d'Edwin, finalement, la vie d'un bon nombre de ces personnages, en fait de tous ces personnages, je crois, finalement, à y repenser, la vie de chacun est bousculée, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, plutôt dans le bon sens, plutôt dans quelque chose de plutôt positif. En tout cas, c'est le cas pour le couple de Henry Foxtrot et de sa femme Denise, qui donc ayant fait vie à part depuis leur mariage finalement, mais toujours étant toujours restés liés, se rapprochent et finalement vivent leur amour de 20 ans. Mais 60 ans plus tard. Et je trouvais ça...
Très beau.
Ouais, j'ai trouvé ça très beau. Moi, c'est un couple que je trouve... Oui, moi, je trouve... C'est parmi les... Enfin, c'est les personnages, moi, que je préfère. C'est cette relation qui est très...
Ils se découvrent.
Voilà, ils se découvrent comme...
Comme
vraiment,
de jeunes amoureux.
Comme deux jeunes amoureux. candide et pur. Alors, je ne parle pas de virginité, mais pur dans l'absence d'intention mauvaise, quelle qu'elle soit. Mmh. Et ça, c'est très difficile une fois qu'on est adulte.
Et puis,
de ne pas avoir de seconde intention.
Mais,
je trouve que ils ne pensent à rien d'autre quand ils sont ensemble et qu'ils se retrouvent.
Parce qu'ils ont fait le tour des choses aussi, peut-être.
Oui, c'est aussi une question. C'est aussi, je pense, un état de sagesse qui permet ça, peut-être.
Voilà, alors on parle donc de cette évolution chez Edgar, même chez le professeur, quoique ils ont des mains, ils sont deux à se gratter les mains. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça signifie? Oui, il y en a deux. Il y a Edwin et il y a le professeur. Ça vous a échappé.
Ça m'a échappé alors.
La psychanalyse va entrer.
D'autant que dans mon premier livre, le personnage principal se grattait la tête jusqu'au sang. Mais il doit y avoir un
Les histoires de psoriasis, c'est très psy. Hein. Alors, l'effet bienfaisant de l'art, et c'est d'une manière inattendue, mais on peut y croire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
D'un point de vue personnel, hors du livre, d'un point de vue personnel, ça va être un peu lugubre ce que je vais dire, mais la vie globalement en soi telle qu'elle est me paraît à partir du moment où on a une conscience et qu'on a développé un esprit critique et d'analyse, il y a quand même parce que voilà, c'est pour mentionner un peu la pensée de Camus, j'ai pas de citation en tête, mais c'est pas très marrant, c'est absurde, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Et l'art, à défaut de mettre du sens, c'est difficile, même encore aujourd'hui, même en travaillant là-dessus et en y réfléchissant, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. C'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui a un effet paradoxal. Ça permet d'avoir des réponses autant que des questions, et en même temps aucune réponse. Et je ne sais pas comment, non, c'est mal formulé encore.
Mais en même temps, ça, s'il n'y a pas de réponse, ça nous réveille,
voilà,
parce que ça nous interroge.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que on entend souvent ce type de phrase, que l'intéressant, ce sont les questions plutôt que les réponses. Mmh. Et d'un autre côté, en face, vous avez le fameux Picasso qui dit « Moi, je ne me pose pas de questions, je trouve les réponses. » Bon, je n'ai pas forcément beaucoup d'estime pour Picasso, l'homme, mais l'idée en soi n'est pas inintéressante. C'est-à-dire que l'art permet de faire quelque chose qui sort de... Vous voyez, là encore, ça réunit des choses. Ça sort de l'utilitaire. Ça n'a aucune utilité. Oui. Et pourtant, vous regardez l'histoire de l'humanité, qu'on appelle ça de l'art ou pas, quelle que soit son utilité concrète ou abstraite, spirituelle ou pratique, vous l'observez partout.
Voilà. On va arrêter là. Voilà. Alors, merci en tout cas Manuel Benguigui pour ce roman que je recommande à nos auditeurs. Il s'agit d'un tableau neigeux. Ça parle de neige, ça parle de blanc, ça parle de feu et de personnages très vivants, paru au Mercure de France. Un grand merci.
Merci à vous.